Very Good Bowie Trip.
Tout un été en compagnie de David Bowie. 9 épisodes pour raconter le parcours d'un artiste insaisissable qui n'a jamais cessé de mourir pour mieux renaître.
Very Good Bowie Trip. Les 9 vies de David Bowie.
Tout de suite, on s'embarque pour un grand et long voyage. Et oui, on peut être des héros, ne serait-ce que pour un seul jour. Qui, aujourd'hui, ne connaît pas ça? Heroes reste sans doute la chanson la plus illustre, signée et interprétée par David Bowie, sans doute le pinacle artistique d'une carrière qui s'est étendue sur un demi-siècle jusqu'à sa mort, survenue il y a 6 ans déjà, en 2016. Oui, aujourd'hui, tout le monde ou presque connaît cette chanson Heroes par cœur. Mais en 1977, il y a 45 ans, en France, ce n'était absolument pas le cas. En général, on entendait guère David Bowie à la radio. Et cette chanson, dans mon souvenir, absolument pas. David Bowie, alors âgé de 30 ans, était une figure de ce que dans la presse spécialisée on appelait l'art rock, le rock à visée artistique, autre façon de désigner le rock avant-gardiste. Et dans ce domaine, celui qui avait co-écrit et chanté avec lui cette chanson Heroes, le musicien anglais Brian Eno, était une figure au fond plus prestigieuse et sans doute plus respectée que celle de David Bowie. Que savait-on alors de Bowie en France ? Le grand public, pas grand-chose. Bowie n'avait pas eu un seul tube chez nous, et en ces temps reculés, une certaine critique rock donnait encore le ton et certains de ses représentants les plus éminents, pas tous, étaient très circonspects à son égard. Ils voyaient en lui ce qu'on appelait un faiseur. Alors c'est un mot péjoratif aujourd'hui tombé en désuétude. Un faiseur, si vous voulez, c'est quelqu'un de prêt à tout pour faire parler de lui, capable de recourir à toutes les astuces possibles et imaginables pour attirer sur lui les projecteurs. Un illusionniste au bien mauvais sens du terme. Quelqu'un qui fait en somme semblant d'être un artiste et pour lequel la publicité est une fin en soi. Vaste controverse qui traverse encore évidemment notre époque. Sans doute faut-il rappeler que vers le milieu des années 70, dans le rock au sens très large, les phares du genre se prenaient extrêmement au sérieux et revendiquaient tous l'authenticité. Chez John Lennon, Pink Floyd, les Who, Cat Stevens ou encore Bob Marley, ça ne rigolait pas du tout. Beaucoup estimaient que le rôle de la musique était de transmettre un message social et politique, voire de se fixer des objectifs révolutionnaires et utopiques ou encore d'être le reflet d'une déchirante quête existentielle. Alors il faut tout de même nuancer ça. Il faut admettre que cette approche a été sérieusement minée dès le début des années 70. Parce que cette décennie qu'on présente aujourd'hui rétrospectivement comme l'âge d'or du rock dit classique ne fut pas que cela. Ce fut aussi l'âge des paillettes, de la futilité fière de l'être et de la dérision, ce qu'on a pu appeler le glam rock. Oui, dans les années 70, tout n'était pas sérieux. Au nom de la parodie, vous aviez le droit de tout faire, vous pouviez tout vous autoriser, introduire dans un concert de rock le cirque, le musical, le cabaret, le travestissement. Vous pouviez vous affubler de combinaisons d'extraterrestres sorties de BD ringardes des années 50. Tout passait, si c'était au nom de la dérision et du second degré. C'est d'ailleurs à ce titre que le rock'n'roll au sens strict, musique qui était devenue ringarde et désuète aux yeux des post-hippies et des amateurs de rock avant-gardiste du début des années 70, commençait à faire son retour.
Very Good Bowie Trip, Mishka Assayas, sur France Inter.
Alors je vous parlais de Brian Eno, le musicien qui a co-écrit la chanson Heroes de Bowie. C'est aussi lui qui a créé les textures sonores électroniques si particulières qui parcourent les chansons figurant dans l'album Heroes, donc du même nom paru en 77. Et bien 4 ans auparavant, en 73, on avait pu voir le même Brian Eno sous un tout autre jour. Il était alors membre du groupe Roxy Music. Et sur la pochette intérieure du deuxième album de ce groupe, For Your Pleasure, on découvrait Eno sous l'apparence extravagante d'une rockstar androgyne, maquillée à outrance, le corps déhanché, une guitare électrique dont il ne jouait pas en bandoulière, le torse nu, glabre, sous un gilet aux épaulettes hérissées de longues plumes noires. Ce qui n'empêchait pas alors ce musicien extrêmement sérieux de donner des conférences sur la musique répétitive. Alors David Bowie était-il pareil à Brian Eno? Se livrait-il à un jeu, à une parodie? Au fond, on ne savait pas trop, on était perturbé. Bowie avait rencontré une célébrité triomphale en 1972 en incarnant le personnage fictif et théâtral bien connu de Ziggy Stardust, rockstar déchu. Alors bien sûr, comme les vedettes anglaises du glam rock, Gary Glitter ou les musiciens du groupe The Sweet, David Bowie portait alors des bottes argentées aux semelles compensées et des vestes aux revers taillées en pointe. Mais il allait plus loin. Il arborait une coiffure hérissée teintée en orange et il portait des costumes indescriptibles de son invention, combinaisons pailletées, juste au corps multicolore. Il avait le corps lui-même peint et le visage aussi comme un masque distant et impénétrable. En fait, on sentait que par rapport à un Brian Eno, encore plus par rapport à un Gary Glitter, David Bowie se situait ailleurs, au-delà de la parodie et de l'humour. Bowie apparaissait comme un comédien, oui, mais un comédien continuant à jouer son rôle dans la vraie vie. Un comédien extraterrestre sorti d'un film futuriste, arraché à sa planète de naissance, errant sur notre Terre comme un naufragé. S'il s'agissait d'un jeu, eh bien ce jeu, au fond, était grave, susceptible de vous mettre mal à l'aise. On discernait en somme du tragique dans ce cirque, et en ça, Bowie, oui, était très déconcertant. Alors voilà, 5 ans après l'album intitulé « The Rise and Fall of Ziggy Stardust », Heroes, son 12e album déjà de chansons originales, sortait en cette année 1977. David Bowie était toujours là, pas plus populaire, peut-être même légèrement moins, mais toujours plus énigmatique. D'ailleurs, ses apparences successives avaient frappé plus encore que sa musique. Les apparences de divers personnages de films qu'il avait imaginés et qui étaient, pour ainsi dire, restés dans sa tête. Le psychopathe au visage émacié en noir et blanc de l'album Station to Station, sorti en 76, qui semblait sorti d'un film allemand des années 30, je sais pas, comme le testament du docteur Mabuse de Fritz Lang, ou encore l'énigmatique visage de profil apparu sur la pochette de l'album Low, début 1977. L'intellectuel nordique, jeune médecin, j'allais dire arien, bah oui, il y avait de ça. On pouvait imaginer, voilà, un jeune savant à la mèche tourmentée, vêtu d'un épais pardessus noir au col relevé. On était habitué, bien sûr, à ce que les acteurs incarnent pour chaque film des personnages complètement différents. Ça faisait partie de leur métier. Mais dans la musique, pas du tout. Sauf peut-être Bob Dylan, qui mettait en scène d'album en album ses métamorphoses successives. Ça peut paraître surprenant, mais à ses débuts, c'est à Bob Dylan que certains ont comparé David Bowie. Et c'est d'ailleurs à la faveur du courant folk qui a porté Dylan à ses tout débuts que Bowie s'est d'abord affirmé au tournant des années 60 et 70. Mais avant tout ça, avant de s'appeler David Bowie, il signa et interpréta d'abord de son état civil David Jones, dit Davy Jones, à la tête de différents groupes, des chansons qui s'inscrivaient dans un tout autre courant, celui d'un rhythm and blues typiquement londonien. Sans le moindre succès, il faut le souligner. Alors, voici Davy Jones, le futur David Bowie, en 1964, en compagnie d'un de ses premiers groupes, les King Bees. Il n'avait alors que 17 ans, et la chanson qu'il interprétait, sortie en 45 tours, en simple, si vous préférez, s'appelait « Liza Jane ». Elle ne rencontrera pas le moindre écho, pas plus que les suivantes. A little
of dishonor. My head's spouting shame. It seems that I've blackened the family name. Mother says that she can't stand the neighbors talking. I've gotta pack my bags, leave this home, start walking, yeah. Go to church on Sundays. I lay awake at night, terrified of school on Mondays. Oh, but it's too late now. I wish I was a child again. I wish I felt secure again. I can't help thinking about me. I can't help thinking about me. I can't help thinking about me. Never, never land. The station seems so cold. The ticket's in my hand. My girl calls my name. Hi, Dave. Drop in, see around, come back if you're this way again.
Can't Help Thinking About Me, un 45 tours paru en janvier 1966, signé pour la première fois du nom de David Bowie, ici accompagné par un des groupes éphémères dont il fut le chanteur, The Lower Third. La première des trois chansons qu'on vient d'écouter, Liza Jane, évoque, à s'y méprendre, le style rhythm and blues anglais, alors en vogue, un style propre à des groupes comme les Animals ou les Pretty Things. Les Pretty Things, un groupe de la banlieue sud-est de Londres, né dans le même institut de beaux-arts que les Rolling Stones, pas loin de là où a grandi le futur Bowie. Le garçon nourrit pour les Pretty Things une admiration qu'on peut dire proche de la dévotion, plein d'ambition. Il a déjà abordé le chanteur du groupe, Phil May, et dans son carnet d'adresses, à côté du nom et du numéro de téléphone de Phil May, il a inscrit ces trois lettres, G-O-D, God, Dieu. Quant aux deux chansons suivantes qu'on vient d'entendre, You've Got a Habit of Leaving et Can't Help Thinking About Me, parues respectivement en 65 et 66, elles évoquent alors irrésistiblement deux autres groupes phares de la période, les Who et les Kinks, dont le style et l'approche marquent Bowie en profondeur. Outre leur façon de s'approprier le blues électrique et divers styles américains, ces deux groupes, alors surtout les Kinks, typiquement londoniens, apportent quelque chose de radicalement nouveau. Ils intègrent en effet dans leur musique des éléments de music-hall européen, ce que les Britanniques appellent le cabaret. Bah oui, les chansons des Kinks en particulier mettent en scène de façon théâtrale divers personnages. Hein. C'est vraiment l'exemple du music-hall. On peut prendre l'exemple de la chanson bien connue des Kinks, Lola. Hein. Elle met en scène un garçon qui va en discothèque et à sa grande surprise se fait draguer par un travesti. Cette approche théâtrale de la chanson séduit profondément le jeune Bowie. Autre aspect très important à ses yeux, aussi bien Pete Townshend des Who que Ray Davies des Kinks sont deux élégants, deux dandies qui soignent leur mise sur scène comme à la ville. À l'inverse des Stones et des Pretty Things qui cultivent plutôt une apparence beatnik, hein, d'étudiant négligé, limite crasseux, hein, ce qui va bien avec leur image sauvage entre guillemets, en laquelle se reconnaît une bande de jeunes qui se fait appeler les Rockers, eh bien les Kinks et les Who et ceux qui les suivent ont une toute autre vision de l'élégance. C'est tout autre chose, disons, les Kinks et les Who pour modèles, ce que à Londres on appelle les mods. Ben, qu'est-ce que c'est les mods? Ce sont des bandes de jeunes gens tirés à quatre épingles qui dépensent toutes leurs économies en vêtements choisis. Pourquoi? Bah pour échapper à leurs conditions sociales modestes et pour ressembler à de jeunes aristocrates oisifs, même si, c'est paradoxal, ils ne jugent que par la musique noire américaine prise à sa source la plus pure. Le jeune David Jones, le futur Bowie, s'efforce, comme les mods, d'avoir l'air riche et soigné. Dans un des premiers longs articles que lui consacre à la fin de l'année 1969, un hebdomadaire londonien consacré à la musique, Melody Maker, eh bien, Bowie se confiera ainsi, je le cite. « Mon enfance a été très heureuse. J'étais seul, mais je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais souffert de la faim, mais j'ai vu autour de chez moi des gens privés de tout, obligés de marcher toute l'année avec la même paire de chaussures trouées. » Alors c'est néanmoins dans un style extrêmement éloigné de ses premières influences blues et rhythm and blues que David Bowie va tenter de s'affirmer dans les années entre 1966 et 1968, des années pour lui très dures, très difficiles, parce que le succès n'arrive pas du tout. Durant ces années se creuse pour Bowie un triste gouffre entre des ambitions démesurées, devenir auteur de chansons, acteur de théâtre et de cinéma, et la plate réalité. Il est un garçon à l'allure très étudiée que tout le monde remarque dans les rues de Londres. Il est mannequin occasionnel pour des publicités, mais enfin personne ne remarque ses chansons. Et pourtant, le talent est déjà là, éclatant. Imaginez que ce titre franchement exceptionnel que vous allez entendre, The London Boys, est passé quasiment inaperçu à sa sortie. Il est paru sous une première version en face B d'un 45 tours oublié sorti fin 1966 et réenregistré deux mois plus tard dans une version plus orchestrée. De rares observateurs relèvent tout de même le talent d'écriture et de composition de Bowie qui livre dans cette chanson un témoignage lucide et limite cruel sur la vie des jeunes qui ont quitté leur foyer et qui traînent le soir dans les rues de Londres. Je cite les paroles de la chanson. « Tu essayes une première pilule, t'as la nausée, tu vas te sentir mal, mais il faut pas perdre la foi. Si tu t'effondres, ce serait la honte face aux gars de Londres. T'en prends trop, tu t'en fous de tes boulots, tant que t'es avec la bande des gars de Londres. » David Bowie, au début de l'année 67, il a tout juste 20 ans.
Bell strikes, another night. Your eyes are heavy and your limbs all ache. You've bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing 'cause the meter's dead. You've moved away. Told your folks you're gonna stay away. Bright lights, Soho, Wardour Street. You hope you make friends with the guys that you meet. Somebody shows you round. Now you've met the London boys. Things seem good again. Someone cares about you. Oh, the first time that you tried a pill, you feel a little queasy, decidedly ill. You're gonna be sick, but you mustn't lose face. To let yourself down would be a big disgrace with the London boys. With the London boys. You're only 17, but you think you've grown. In the month you've been away from your parents' home, you take the pills too much. You don't give a damn about the job you've got, so long as you're with the London boys. A London boy, oh, a London boy. Your flashy clothes are your pride and joy. A London boy, a London boy.
You're crying out loud that you're a London boy. You think you've had a lot of fun, but you ain't got nothing, you're on the run. It's too late now, 'cause you're up there, boy. You've got it made with the rest of the toys. Now you wish you'd never left your home. You've got what you wanted, but you're on your own with the London boys. Now you've met the London boys. Now you've met the London boys. Now you've met the London boys.
Silly Boy Blue, une des premières chansons mémorables signées par David Bowie. Elle figure dans son premier album qui est paru en 1967 et qui, comme je vous le disais, suscita en son temps très peu d'écho. Alors au fait, pourquoi Le londonien David, dit Davy Jones, a-t-il un beau jour décidé de changer de nom? Oh ben c'est très simple, il existait alors un autre Davy Jones, un chanteur anglais qui avait émigré aux États-Unis et qui s'était fait un nom en chantant adolescent d'une comédie musicale à Broadway. Et qui allait bientôt se joindre aux Monkees, un boy band avant la lettre, dans le style des premiers Beatles qu'un studio de Hollywood avait assemblé de toutes pièces pour créer une série télévisée. Bref, dès la fin 1965, notre Davy Jones, Bowie, à Londres, imagine un nom à la consonance américaine, celui d'un personnage historique, le légendaire colonel Jim Bowie, qu'avait incarné l'acteur Richard Widmark dans le western de John Wayne, hein, vit Alamo, Fort Alamo. Et ce Bowie a surtout laissé son nom à un couteau légendaire, le couteau Bowie à lame recourbée, associé entre autres à la conquête de l'Ouest, hein, le Bowie Knife. Alors revenons à la musique, ou plutôt à ce que révèle la chanson surprenante qu'on vient d'entendre, Silly Boy Blue. Déjà, vous avez remarqué cette façon particulière de chanter, théâtrale et mélodramatique. Alors que Bowie n'a que 20 ans, c'est une manière de chanter qui n'a rien de juvénile. Elle a même tout d'adulte. On ressent en effet dans cette voix quelque chose, si j'ose dire, de vieux avant l'âge, de grave en tout cas. Alors pour les auditeurs de l'époque au Royaume-Uni, l'air et l'orchestration peuvent rappeler le style d'un trio vocal très en vogue du nom des Walker Brothers, les frères Walker. Alors c'était trois beaux et grands garçons venus de Los Angeles, des Américains, alors fixés à Londres où ils ont connu un succès triomphal. Un succès d'ailleurs un peu à contre-courant, en tout cas très loin du rhythm and blues alors en vogue auprès des jeunes et très très loin du psychédélisme naissant. La voix du chanteur principal, Scott Walker, est de celle qu'on associerait plutôt à la variété au sens français. Avec ses camarades, qui d'ailleurs ne sont pas du tout ses frères, hein, malgré leur nom, il a par exemple adapté en anglais des airs composés par Michel Legrand pour le film « Les parapluies de Cherbourg ». Et dès la fin de l'année 1967, Scott Walker va entamer une carrière solo. Et c'est grâce à Scott Walker que Bowie va découvrir, grâce à des adaptations en anglais, les chansons de Jacques Brel. Dans le premier album solo de Scott Walker, qui s'appelle simplement Scott, il y a carrément trois chansons de Brel, Mathilde, La Mort et Amsterdam. Ce sera le début de la passion de Bowie pour Brel, puisqu'il interprétera régulièrement ses deux dernières chansons dans ses premiers récitals.
Very good Bowie trip.
Alors je reviens à Silly Boy Blue qu'on vient d'entendre. Une chanson très surprenante déjà par son thème. La difficile initiation à la sagesse d'un jeune moine bouddhiste. Oui, Bowie y met en scène le palais du Potala, à Lhasa où réside le Dalai Lama dans le sud du Tibet. Il dessine l'image étrange de statues en beurre de yak qui fondent au soleil, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et Bowie évoque l'aspiration d'un jeune homme, d'un jeune moine, à échapper à son corps terrestre. Je cite la chanson « Tu fais et tu refais le même souhait. Tu as tenté si fort de t'envoler, tu ne quitteras pas ton corps tout de suite, il te faudra attendre de mourir. » Alors, des paroles dont l'inspiration, en fait, ne vient pas de nulle part. Adolescent, David Bowie avait lu un livre intitulé « 7 ans au Tibet », l'autobiographie d'un SS autrichien qui était parvenu à s'enfuir d'un camp d'internement de l'armée britannique en Inde. Ce soldat était parvenu jusqu'à Lhasa, où il était devenu le disciple et l'ami d'un jeune Dalai Lama. Jean-Jacques Hano en a fait un film bien connu à la fin du siècle dernier, un film pour lequel, je le dis en passant, Brad Pitt s'était étrangement un peu fait la tête de David Bowie. En tout cas, très jeune, Bowie s'est ouvert de sa fascination pour la vie des moines tibétains. Dans le tout premier article qu'un journal anglais lui a consacré en 1966, il avait 18 ans, voici ce que David Bowie disait. « Je suis fasciné par ces moines qui s'enterrent au cœur des montagnes et ne mangent qu'une fois tous les trois jours. » À 19 ans, Bowie déclare déjà qu'il croit en la réincarnation. Ça n'a rien d'un engouement passager. Comme de nombreux jeunes gens en cette seconde moitié des années 60, Bowie cherche à aller plus loin dans la recherche spirituelle. Il pousse même la porte d'un centre bouddhiste à Londres où il fait la connaissance du lama Chaim Rinpoche et il va même contribuer à créer un centre bouddhiste en Écosse, un centre où, paraît-il, on enseigne alors une version entre guillemets chamanique du bouddhisme. Et Bowie songe même à un moment à se faire moine, mais le lama londonien, qui restera son ami, va l'en dissuader. Alors on peut entrevoir dans cette quête spirituelle naissante, une piste que j'esquisse et à laquelle je reviendrai, une aspiration chez Bowie à échapper à une menace qui, dans son existence, était bien réelle, la folie. Une folie qui rongeait Bowie et dont il a fait en tout cas un des thèmes centraux dans son œuvre de musicien. Rien d'étonnant à ce que l'idée de la réincarnation l'ait fasciné. Toujours, David Bowie a été en quête d'un chemin lui permettant de mourir et de renaître autre, différent, un chemin qu'il n'a, à sa façon, jamais cessé de suivre tout au long de sa vie.
Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red. Rich men's children running past, their fathers dressed in hose. Golden hair and mud of many acres on their shoes. Gazing eyes and running wild, past the stocks and over stiles. Kiss the wind, oh merry child, but come and buy my toys. You've watched your father plough the fields with a ram's horn. Sowed it wide with peppercorn and furrowed with a bramble thorn. Reaped it with a sharpened scythe, threshed it with a quill. The miller told your father that he'd work it with the greatest will. Now your watching's over, you must play with girls and boys. Leave the parsley on the stalls, come and buy my toys. You shall own a cambric shirt. You shall work your father's land. But now you shall play in the market square till you be a man. Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red.
She'd set up the drinks on the house. She played a good game of darts, and the men slapped her back and never took her out. She wore a trench coat khaki. Her hobnail boots were full of holes.
She's got
her mother called her Mary, but she changed her name to Tommy. She's a one. Oh. She went and joined the army, passed the medical. Don't ask me how it's done. They sent her to the front line, fighting for her country's name.
She's got medals.
She got very tired of picking up girls, cleaning her gun and shaving her curls. Then the enemy dropped a bomb. Survivors there were none. People say that when the moon is full and all the stars have gone to bed, you can see a ghost, but that's a lie, because the naughty woman isn't dead. Deserted on the previous morning, replaced her uniform with dresses, silk and green.
called herself Eileen, came to London town. Now she's settled down.
She's got meadows.
On Sunday, give me your heart and I'll love you till Tuesday. Da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum. Who's that hiding in the apple tree, clinging to a branch? Don't be afraid, it's only me, hoping for little romance. If you lie beneath my shade, I'll keep you nice and cool. Ah, beautiful baby, I was very lonely till I met you on Sunday. My passion's never ending and I'll love it till Tuesday. Da 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 dum, da 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 dum, da 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 dum. Da 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 da. Let the wind blow through your hair, be nice to the big blue sea. Don't be afraid of the man in the moon, because it's only me. I shall always watch you until my love runs dry. Ah, beautiful baby, my heart's aflame. I'll love you till Tuesday. My head's in a whirl and I'll love you till Tuesday. Love, 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 love you till Tuesday. Love, 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 love you till Tuesday. Da 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 dum, da 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 dum, ba 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 ba. Da 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 da. Well, I might stretch it till Wednesday.
David Bowie en 1967 dans Love You Till Tuesday, une chanson qui ne fut guère diffusée en son temps, pas plus que les autres qui composaient son album inaugural sans titre, publié, figurez-vous, le même jour que le Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, dont la pochette montrait la photo en gros plan, hein, sur fond vert épinard, d'un très jeune homme blond à la mine grave et pénétrée, un simple lettrage bleu à peine fantaisiste annonçait sobrement David Bowie. Alors cet album présente un assemblage de styles aussi biscornu que celui de l'album Sgt Pepper. On y trouve un peu de tout, un peu comme dans une émission de variété à la télévision, une chanson au style folk alors en vogue, Come and Buy My Toys, à la manière du duo Simon & Garfunkel qu'on a entendu au début de cette séquence, puis après vous avez entendu She's Got Medals. Alors rien à voir, hein, on dirait là plutôt une version musicale du style des Who et des Kinks psychédéliques. Et puis alors, je sais pas, il y a aussi des réminiscences de chansons françaises accompagnées à l'accordéon, il y a des airs de comédie musicale rétro soutenues par une petite fanfare. Alors quand on écoute cet album album aujourd'hui, on est frappé tout de même par le soin qu'accordait David Bowie à l'écriture de ses chansons. Jamais banales, les mélodies sont rehaussées par de belles harmonies et c'est en comédien de théâtre et de musical, en 10 heures, que Bowie façonne et sculpte les paroles de ses chansons. Il est clair que son ambition principale est alors d'être reconnu comme un auteur à la façon d'un de ses modèles, Bob Dylan. D'ailleurs, dans les premières années, le manager de David Bowie s'emploiera à convaincre des interprètes plus réputés, notamment aux États-Unis, de reprendre les chansons de son protégé, pensant, non sans raison, que là résidait son talent le plus directement exploitable. Sans grand succès dans les premières années, ça a bien changé après. Alors à l'époque, les rares commentateurs qui remarquent cet album compare le style de David Bowie, une certaine façon de poser sa voix et d'interpréter ses chansons, à celui d'un artiste britannique dont la réputation, faut le dire, n'a jamais traversé la Manche, Anthony Newley. Un excellent interprète, un compositeur aussi, comment le définir, quelque part entre Charles Aznavour et Frank Sinatra, avec peut-être un peu de Brel dans le côté gestuel et expressionniste. Et aussi dans une certaine façon de camper des personnages et de grimacer. Ajoutez à ça un zeste d'excentricité britannique et vous avez Anthony Newley qui aimait aussi beaucoup se déguiser et se grimer parfois. Alors j'en parlerai dans le prochain épisode de cette série que nous allons consacrer tout cet été sur France Inter à, qui vous savez, le personnage de David Bowie présente d'emblée plusieurs facettes dont la réunion est au fond très déroutante. Le jeune mode londonien, tiré à quatre épingles, amoureux de rhythm and blues noir américain. Le mystique idéaliste, armé d'une guitare folk, subjugué par le bouddhisme tibétain. L'étudiant en théâtre et en mime, ça j'y viendrai. Et l'homme de music hall, au goût extrêmement rétro, prêt à toutes les extravagances pour se faire remarquer. Alors si David Bowie avait disparu au début de l'année 1971, à 25 ans, l'âge auquel Bob Dylan avait déjà publié cet album, personne ne saurait aujourd'hui qui il était, à part sans doute une poignée de collectionneurs amateurs de curiosités des années 60. En effet, jusqu'à cette année-là, Bowie est resté l'auteur d'un tube sans lendemain, Space Oddity, paru à la fin de l'année 1969. Un tube par hasard, pourrait-on dire. Alors son origine est très documentée, on sait beaucoup de choses. De son propre aveu, David Bowie était pas mal défoncé quand il est allé voir le célèbre film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Cocaïne, amphétamine, herbe, difficile à dire, il a pratiqué tout ça dès l'âge de 15 ans, dans cet ordre, inattendu. En tout cas, il était dans un drôle d'état en sortant de ce film, où l'on voit, certains se rappellent, l'ordinateur prendre le contrôle du vaisseau spatial, et puis il y a ces fameuses images montrant les astronautes flottant en apesanteur pendant qu'on entend la valse de Johann Strauss, le beau Danube bleu. Alors Bowie a imaginé cette histoire qu'il a composée à la guitare sèche dans le style de Simon & Garfunkel. Comme il dit, il y a un peu de Dali, un peu de Bee Gees et un peu de 2001, l'Odyssée de l'espace. Un astronaute, Major Tom, le commandant Tom, répond à la base, Ground Control, et voici ce qu'il dit. « Même si je suis à 200 000 km, rien ne bouge ici. Je flotte autour de ma boîte de conserve, bien au-dessus de la Lune. La planète Terre est bleue et il n'y a rien que je puisse faire. Est-ce tragique? Est-ce qu'il s'est débranché? Est-ce qu'il va disparaître? Mystère. » On entend un son typique de l'époque, le mélotron, un sort de sampler préhistorique. Alors le coup de chance de Bowie, c'est que Space Oddity fut utilisé par la BBC comme générique pour une émission sur la mission Apollo 11 qui, comme chacun sait, a vu l'homme marcher pour la première fois sur la Lune. Alors David Bowie avait appelé sa chanson d'un jeu de mots, Space Oddity, à curiosité de l'espace, mais on peut l'entendre aussi comme Oddity, chansonnette bizarre.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Pièce musicale très élaborée signée David Bowie en 1969, Space Oddity, qui fut son premier tube et longtemps son seul tube. Alors on sent une autre influence vocale primordiale, celle de John Lennon, j'y reviendrai évidemment. Alors dans cette évocation d'un astronaute qui flotte à des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de notre planète, peut-être y a-t-il aussi l'anticipation chez Bowie de l'isolement de la star dévorée par sa propre sensibilité, puisque en dessous, sur Terre, hein, dit la chanson, les journalistes veulent absolument savoir de quelle couleur sont ses chemises. Voilà, la curiosité des médias déjà. Voilà qui vient conclure le premier épisode des aventures surprenantes de David Bowie. Et oui, c'est tout pour cette fois.
Very Good Bowie Trip. Une série de Mishka Assayas réalisée par Frédéric Milano et Stéphane Ronxin sur France Inter.
La prochaine fois, pour le deuxième épisode, eh bien on verra comment le jeune David Jones est pour la première fois devenu David Bowie.